Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le stress de la vie quotidienne emprisonne et conditionne notre cerveau. Nous avons facilement tendance à nous énerver pour des broutilles, embouteillages, enfants ou conjoints qui laissent traîner ses affaires, ne rend jamais, queue interminable dans les magasins. Et dans ces circonstances, sans qu'on en ait vraiment conscience, c'est en fait notre ego qui s'agite. Qu'est-ce qu'on m'a encore fait ? Or, notre ego est finalement l'ennemi de notre bien-être mental. Alors, pourquoi se fait-on souffrir avec des banalités ? Comment neutraliser ces idées nocives, se calmer ? Quelles sont les méthodes pour apprivoiser son mental et s'en libérer ? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Serge Marquis. Il est médecin québécois, spécialiste en santé communautaire, détenteur aussi d'une maîtrise en médecine du travail de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et il a publié « On est foutu, on pense trop. Comment se libérer de pensouillard, le hamster ?» aux éditions de La Martinière. Et si vous avez envie de participer, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on retrouvera la chronique de Sylvie Hasbrouck. Nous aurons également au téléphone le docteur Chouaki Azouri, qui est psychiatre et chef du service de psychiatrie à l'hôpital Montliban à Beyrouth, au Liban. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Docteur Serge Marquis, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir chez vous.
Comment se fait-on finalement souffrir avec des banalités ? J'en ai cité quelques-unes, vous en citez d'autres dans votre ouvrage. Quel est le processus qui fait qu'on s'énerve pour rien, finalement ? Parce que c'est ça le principe.
Oui, absolument, tout à fait. On s'énerve pour rien parce qu'on a toujours l'impression que ça devrait pas arriver à nous, ce qui nous arrive, en fait. Le feu de circulation ne devrait pas passer à l'orange quand nous, on arrive, parce que c'est là qu'intervient l'ego. Il y a une considération de soi tellement importante qu'on a l'impression que quand on arrive au feu de circulation, il devrait toujours être au vert. Et c'est la même chose quand on arrive...
L'orange a été fait contre vous.
Contre nous, c'est moi. Comment ça se fait que c'est à moi que ça arrive? Pourquoi toujours à moi que ça arrive? J'ai toujours au supermarché, on est dans une file d'attente et ça y est... La caissière, on la trouve trop lente. Ça part encore une fois dans la tête. Comment ça se fait qu'elle a les mains pleines de pouces? Pourquoi ils engagent les mains comme ça ici, etc., etc. Alors, c'est notre ego, parce que nous, quand on arrive au supermarché, à la file d'attente, il devrait jamais y avoir personne, comprenez-vous. On est tellement important qu'on devrait toujours passer sans qu'il y ait de personne qui nous arrête. Alors, c'est cette espèce de discours intérieur, ces pensées qui accapare, je dirais, c'est l'expression la plus juste, qui accapare notre attention. Ça, c'est très important parce que on a découvert au cours des dernières années que l'attention ne peut être qu'à un seul endroit dans un moment précis. Et si elle est accaparée par le discours intérieur, elle ne peut plus être dans le moment présent. Et comme il y a cette espèce de présence permanente de l'ego qui a toujours l'impression que...
Mais pourquoi c'est notre ego et pas simplement on est agacé parce que la vie va vite et qu'il faut avancer, qu'on est pressé, qu'on est en retard, donc si le feu est orange, c'est agaçant, si la queue n'avance pas assez vite, faire franchement ses courses au supermarché, il y a plus intéressant. Pourquoi c'est notre ego?
C'est cette croyance... C'est associé à une espèce de croyance là que tout ce qui arrive ne devrait pas au fond nous arriver. Donc il y a une espèce de résistance à ce qui arrive compte tenu du fait qu'on donne une immense importance à notre moi. Alors on résiste au fait que bon, moi je raconte toujours que chez moi mon père nous avait enseigné qu'un tube de pâte dentifrice on devait toujours commencer à l'écraser par le bas. Et quand j'ai commencé à vivre en famille et que notre fille écrasait le tube de pâte dentifrice dans le milieu, ça partait dans ma tête, comment ça se fait qu'elle fait ça? Cette espèce de conditionnement que j'avais eu
sur le tube de dentifrice,
un conditionnement que j'avais eu qui faisait en sorte que je croyais que ça devait toujours se faire comme ça. J'étais comme identifié, et ça c'est très important parce qu'on rentre dans la définition de l'ego. J'étais identifié à une croyance, si vous voulez, qui m'était venue mes parents. Et quand on s'identifie à quelque chose,
au tube de dentifrice, c'est ça. À la manière dont il va être écrasé. Vous dites aussi, on s'identifie de temps en temps, mais par exemple à sa paire de chaussures, à des choses aussi bêtes que ça.
Il y a un processus, c'est Carl Jung qui a décrit ça, il y a un processus d'identification qui est très actif dans notre tête, très tôt dans notre vie. On s'identifie aux vêtements qu'on porte, on s'identifie à la marque de voiture qu'on a, on s'identifie au stylo qu'on a acheté, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas la distinction entre la perception d'une menace à notre survie et la perception d'une menace à quelque chose auquel on s'est identifié. J'ai appelé ça des pelures identitaires, des couches identitaires. Alors, si on s'identifie à sa cravate et que quelqu'un devant nous a, je sais pas, un regard qui a l'air de mépriser notre cravate, le cerveau perçoit ça comme une menace à notre couche identitaire, donc à notre moi.
Pas sur la cravate, mais sur soi.
Sur
mais
soi.
Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est important et ce qui l'est pas?
Vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est là qu'il faut absolument s'entraîner, s'exercer, pour développer une capacité qu'on a tous et toutes, que j'appelle la vigilance. On a tous en nous, mais faut la développer. La vigilance nous permet de découvrir où est notre attention. Par exemple, si je suis au supermarché et que ça se met à courir dans la roulette, là, j'appelle ça le petit hamster qui court inutilement. Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? Il ne devrait jamais y avoir personne quand j'arrive, etc. La vigilance, si on s'est entraîné, permet de découvrir que le discours s'est amorcé, que le hamster a commencé à courir dans sa roulette. Et là, ça fait, ah, oh, ça y est, ça s'est mis encore à courir, à rouler dans ma tête. Et là, on peut ramener l'attention complètement sur quelque chose de concret. Ça peut être, entre autres, être notre souffle. C'est omniprésent, le souffle, bien sûr, parce que si c'est pas là, on meurt, hein, c'est la respiration. Donc, si on ramène l'attention sur quelque chose de concret, comme elle peut pas être à deux endroits au même moment, là, en même temps, elle n'est plus sur le discours intérieur. Et ce discours...
Ça va éviter de s'énerver.
Oui, parce que le discours est toujours en train de percevoir des menaces à notre moi, constamment.
À vous, vous parlez du hamster. Moi, je parle plutôt du petit vélo dans la tête. Probablement que chaque culture a son expression pour parler de sa façon de ruminer. Les auditeurs, d'ailleurs, ont été très intéressés par ce sujet. Ils ont été nombreux à réagir sur Facebook. On a Lily qui nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lily, bonjour.
Oui, bonjour.
Racontez-nous ce qui vous arrive.
J'appelais pour donner ma petite expérience. Depuis 2009. En fait, j'ai intégré un établissement après un concours. Je devais rester à l'internat. Bon, avant cela, j'avais de parfaites relations avec mes amis et autres. Mais quand j'ai intégré l'établissement, j'ai vu une autre facette de l'homme. C'est-à-dire, c'était un peu plus compliqué, beaucoup de disputes. Et là, je trouvais que c'était un peu...
Ah, j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Est-ce que vous êtes toujours là, Lily? Non, on a eu une coupure, je sais pas ce qui s'est passé, Lily. Donc, vous étiez en train de nous raconter que vous aviez intégré en 2009 un internat et que là, vous avez eu une mauvaise expérience, vous êtes un peu replié sur vous-même parce que vous arriviez, vous arriviez plus à vous faire d'amis. Et racontez-nous aujourd'hui.
Non, pas que je n'arrivais pas à me faire d'amis, mais en fait, c'est que quand on est à l'école, on va les matins, on descend les soirs, c'est une autre relation. Mais quand il s'agit de vivre à l'internat avec les autres, c'est aussi une autre relation. Et moi, c'était la première fois que je vivais cette expérience pendant 3 ans. Et c'était vraiment compliqué. Et après, la troisième année, quand on est rentré, j'ai vraiment changé mon regard sur tout le monde. Je jugeais beaucoup. Je trouvais que la relation humaine était difficile, que les gens ne se comportaient pas en fait comme moi. Et bon, j'ai passé mon temps à accuser les autres, à juger, pas réellement savoir si j'avais ma part de responsabilité. Et depuis, je crois, depuis 2011, j'ai perdu carrément tous mes amis parce que je suis restée dans mon coin. Bon, j'ai limité seulement aux appels et il n'y a plus de fréquentation parce que je trouve que les relations humaines sont trop difficiles.
Et ça vous fait souffrir quand même. Vous aimeriez bien savoir un peu
C'est difficile, c'est pénible parce que souvent quand je m'assois, je me dis bon, je passe mon temps à juger. Est-ce que c'est le plus important, c'est ça, c'est-à-dire accepter les gens tels qu'ils sont
et ne pas juger tout le temps. Docteur Serge Marquis.
Oui.
C'est intéressant ce que raconte Lily.
Quelle belle prise de conscience parce que effectivement. Une des activités de cette bicyclette, si vous voulez, ou de ce hamster qu'on a constamment dans notre tête, c'est pour pouvoir se protéger, on va devoir observer s'il y a des menaces dans l'environnement. Et dès qu'on perçoit un regard sur nous qui peut être un regard qui va dans le sens contraire de ce qu'on voudrait être, donc une espèce de jugement sur notre image, on va se mettre à juger l'autre.
Défensive, pour se défendre.
Tout le temps. Parce que l'ego est constamment sur la défensive. Pourquoi? Parce que l'ego a constamment peur de mourir. Alors, toutes ces pelures identitaires qu'on a acquises au cours de notre existence, on voudrait qu'elles demeurent intactes, ayant l'illusion que si elles demeurent intactes, nous allons être immortels, si vous voulez, nous allons survivre. Donc, on est constamment en train d'évaluer n'importe quelle phrase qui pourrait être prononcée, n'importe quel regard, un froncement de sourcil qui pourrait être fait comme une attaque, si vous voulez, à une des couches identitaires.
Donc c'est une façon de se défendre, ce que Lily d'ailleurs avait bien compris dans son rapport aux autres. Mais une fois qu'on a compris ça, et on sent bien que Lily, elle a compris ce qui lui arrivait, on fait quoi pour changer? Parce que c'est ça tout le problème.
C'est le cœur du problème, parce qu'il faut découvrir ce que nous sommes vraiment. Nous sommes aucune de ces pelures identitaires. Nous sommes pas du tout nos images ou ce à quoi on s'est identifié. On n'est pas notre cravate, on n'est pas la marque de voiture qu'on conduit. On n'est même pas les croyances auxquelles on s'est identifié. C'est très important. Et je cherchais à définir ce que nous sommes vraiment pour pouvoir faire la différence, la distinction entre les pelures identitaires et ce qu'on est vraiment. Puis je l'ai entendu un jour dans une conférence au Québec prononcée par une femme d'ici, une femme extraordinaire qui s'appelle Marie de Hennezel, qui a travaillé dans les soins palliatifs et qui, en pleine conférence, disait au Québec... Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Cette phrase a complètement changé ma vie. Parce que qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? La première chose qui en nous ne vieillit jamais, elle observait aux soins palliatifs des personnes qui sont quelques heures avant de mourir, là. Ben, la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent, présente aux autres. Aux soins palliatifs, on voit des gens qui sont très, très présents encore quelques heures avant de mourir aux personnes qu'ils ou qu'elles aiment. Et cette capacité d'être présent, présente à ce qui nous entoure, elle sous-tend toutes les capacités qui font que la vie vaut la peine d'être vécue.
Être dans l'instant présent.
Complètement.
Et pour Lily, là, elle s'en sort comment? Donc, vivre l'instant présent, mais comment finalement arrêter de passer son temps à juger les autres?
D'abord, il faut observer. C'est la première chose qu'elle a déjà fait.
Elle a bien compris ce qui lui arrivait.
Absolument.
Ça, c'est clair.
Elle a réussi à observer que dans sa tête, il y avait ces jugements permanents. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle doit ramener son attention complètement dans le présent. D'abord, la première chose, c'est de les observer. Ah, ça y est, ça juge dans ma tête. Ah là là. Donc là, on ramène l'attention dans le présent. On peut, entre autres, ramener l'attention sur l'autre. Quand quelqu'un nous parle, c'est très fréquent que le hamster se met à courir et commente ce que la personne est en train de nous dire. Comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, si je suis en train de commenter dans ma tête ce que la personne est en train de me dire, je n'écoute plus. Et la personne va le sentir. Donc, elle va sentir que je ne suis pas en sa présence. Elle va sentir une certaine forme de rejet. Et si elle sent une certaine forme de rejet... À l'intérieur d'elle, la tension va monter, la réaction de stress va monter. Et là, elle peut commencer elle-même à me juger. On entre dans le conflit. On n'est plus en train d'établir une relation, un pont. On est en train d'entrer dans le conflit. C'est pour ça que je parle de la capacité d'être présent, parce qu'elle est à base de toutes les capacités qui ne vieillissent jamais en nous et qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Entre autres, la capacité d'aimer.
Lily, ça vous paraît possible de faire ce travail-là?
Oui, ça va être un peu difficile.
Ah ben ça, on est d'accord, on change pas du jour au lendemain. Mais essayez, puis tenez-nous au courant de savoir si les conseils pratiques du docteur Serge Marquis, ça marche. Et on va revenir sur tous ces conseils pratiques.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de notre ego avec le docteur Serge Marquis qui vient de publier « On est foutu, on pense trop ». Et évidemment, on a eu envie que Sylvie Hasbrook, notre chroniqueuse, mette son grain de sel. Vous travaillez, faites tout un travail artistique, Sylvie, sur les émotions. Et vos installations concernent les enfants, leur débordement émotionnel. Et donc, vous avez des choses à dire sur toutes ces questions.
Ben oui, vous savez bien, Claire, que certaines de mes installations concernent précisément les endroits dont nous sommes en train de parler avec vous, Serge Marquis. Alors voilà, il faut du temps, la méditation et la respiration. Ça marche aussi très bien avec les plus jeunes, mais c'est pas toujours l'élément le plus facile à trouver, le temps. Alors, je vous propose quelques astuces d'urgence en attendant de transformer de façon durable votre progéniture en petit Bouddha. Et on commence avec Dory, sorte de Dalai Lama.
Je vais y arriver. Dalai Lama.
Merci Claire. Des moins de 10 ans dans le dessin animé Nemo.
Dis donc, monsieur le grand chef de service. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale tour?
Je ne veux pas le savoir.
Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Faisons-nous, nous nageons, nageons.
Dory, arrête.
Dory. J'adore la natation.
Dory.
Quand on pourra nager, la vie vaudra
la peine. Voilà, ça y est, tu m'as mis cette terre dans la tête, je vais plus pouvoir m'en débarrasser maintenant.
Pardon.
Tu vois quelque chose?
Nique bête.
Ah, c'est moi, excuse-moi.
Qui êtes-vous?
Qui êtes-vous, mais qui veux-tu que ce soit? C'est moi, voyons.
Est-ce que vous êtes ma conscience?
Hein? Oui, je suis ta conscience, oui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Comment ça va?
Bah, écoute, ça va pas mal.
Hein? Bien. Alors maintenant, dis-moi, Dory, est-ce que tu vois quelque chose?
Je vois une lumière.
Une lumière?
Oui, juste là. Dis-moi, conscience, est-ce que je suis morte?
Ah non, je la vois, moi aussi.
Et oui, votre hamster Serge Marquis existe aussi dans les Pixar. Il semble s'appeler la conscience. Nous retiendrons de cet extrait que le conseil précieux du poisson le plus heureux de l'océan est de nager droit devant lui quand ça ne va pas. Et même dans le registre, voici une déclinaison de bon tuyau, bonne humeur, sans entraînement nécessaire. Vous êtes perdu dans une administration, vous ne trouvez plus le bureau 523. Vous, Serge Marquis, recommandez dans ce cas précis de se coller contre un mur les yeux fermés et de respirer profondément jusqu'à ce que l'emplacement vous revienne. Dans une version avec enfants entre 3 et 5 ans, je vous propose d'organiser un jeu de piste en laissant des traînées de Madeleine par terre, tel un petit pousset. Les couloirs deviennent un lieu limite convivial, vous devenez la mère la plus joyeuse de la Terre, vous passez une journée finalement très gaie, voire vous vous êtes fait de nouveaux amis si vous avez réussi à convaincre d'autres passants de jouer au jeu de « Cherche le bureau 523 avec moi » et vous dormez ce soir-là comme une souche. Cette journée restera inoubliable, vous avez dopé vos hormones de la joie, vous avez nourri votre case nostalgie avec des souvenirs réjouissants et vous n'avez plus peur de la bureaucratie.
Et le deuxième exemple que donne le docteur Serge Marquis dans son livre, c'est un match de foot à la télé, un endroit qui n'est pas forcément très calme.
Pour éviter de s'énerver devant sa télé et ses enfants, vous proposez des exercices de méditation, Serge Marquis. Bon, peut-être que c'est mal connaître les supporters, mais surtout c'est négliger qu'un enfant de 3 ans contrôle assez mal ses excès d'énervement quand il va rejouer le match le lendemain au centre de loisirs. Comme il aura du mal à convaincre ses camarades de méditer à la mi-temps, je vous propose plutôt de lui offrir une énorme balle en mousse dédiée à la colère, d'ailleurs de la dessiner dessus sous forme de monstre, une balle qu'on peut frapper de toutes ses forces afin de laisser sortir les tensions nerveuses qui s'exercent en cas de sentiment de non-respect. Ce genre de défouloir vous permet de ne pas garder au fond de vous une colère, mais de ne pas non plus la laisser sortir n'importe comment. Pour un enfant, le geste est simple, vous pouvez aussi lui proposer d'écraser des vieux feutres de toutes ses forces sur une page blanche, puis de relier les jolis points une fois la tension apaisée de cette façon. Vous avez ainsi transformé l'émotion en création immédiatement, sans préparation, avec des gestes à la portée de tous, y compris des adultes d'ailleurs, et neurologiquement efficaces.
Et docteur Serge Marquis, j'aimerais bien vous faire réagir sur le match de foot, mais est-ce que finalement, c'est pas un bon endroit aussi où se défouler? Est-ce que de temps en temps, c'est pas bien de se défouler, pas de se calmer?
Ah oui, tout à fait. Mais moi, le match de foot, vous savez, j'aime bien admirer le travail qui est fait par les personnes, ou enfin, leur habileté, leur capacité à... C'est beau, ce sont des artistes, au fond, en mouvement. Alors que si je suis dans le processus d'identification, encore une fois...
Sur une équipe dont on veut qu'elle gagne?
Et qu'elle ne gagne pas... Il se pourrait, en l'espace d'une seconde, que je devienne exactement comme j'étais ou comme nous étions il y a 4 millions d'années quand on entendait un rugissement d'un fauve. Parce que les hormones du stress sont sécrétées et là, on est prêt à sauter sur le terrain. Il y a des gens qui le font. Chez nous, c'est le hockey et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui sautent sur la patinoire.
C'est ça qui explique que les supporters soient fous furieux de temps en temps.
Tout à fait, c'est un processus identitaire.
Donc,
Oui, tout à fait. C'est comme si c'est eux-mêmes qui étaient susceptibles de disparaître ou de mourir parce que leur équipe a perdu. Après une défaite d'une équipe à laquelle on s'est identifié, des gens téléphonent souvent à la radio sur des lignes ouvertes, et c'est épouvantable d'entendre leurs discours. Ils sont comme enragés, littéralement, là. Mais biologiquement, les hormones sont très présentes. Le cœur bat vite, la tension artérielle est élevée.
Alors, je vous avoue que le suivi du match de foot, j'ai plus de mal à comprendre. Par contre, l'exemple des corvées à la maison, Sylvie Hasbrouck, je comprends un peu mieux.
Vous redoutez une baisse de morale au moment de sortir les poubelles et autres corvées ménagères. Vous proposez, Serge Marquis, des mantras de bon petit soldat qui ne réfléchit pas et exécute sa mission indispensable. Si votre enfant a la même piètre opinion de lui au même endroit, pourquoi ne pas plutôt essayer de battre son propre record de vitesse tous les soirs? De sortir les poubelles devient à ce moment-là un moment divertissant, une bulle récréative, un lien social si vous participez en famille à ce micro-concours. De la même façon, votre petit vieux isolé dans votre livre, Serge Marquis, à qui vous proposez de boire sa tasse de thé en se focalisant sur la saveur délicieuse et réconfortante de sa tisane, peut-être pourrait-il demander à ses petits-enfants de le former aux réseaux sociaux afin de monter un club des buveurs de thé via Skype qui lui permettra de boire son thé avec des tas d'autres papilles dans le monde entier en temps réel, en apprenant peut-être d'autres langues, d'autres rites, bref, d'avoir des projets.
En clair, Sylvie, vous dites qu'il faut plutôt jouer avec nos émotions, avec ses émotions.
C'est en tout cas un moyen accessible absolument à tous les enfants et tous les parents pour trouver un juste milieu entre je m'aime et je ne m'aime pas. Crier par la fenêtre un bon coup ou ajouter une jolie bougie quand on est de corvée de mettre la table valent bien une méditation pour certains, peut rendre le pittoresque au quotidien, équilibre mine de rien les émotions. Puis transformer vos émotions ne vous empêche pas de méditer, mais ça peut vous laisser le temps d'en avoir le réflexe. Faut que j'arrête.
Hein. C'est exactement ça. Non, on vous retrouve, Sylvie, dans 3 minutes, juste après les informations, toujours justement pour parler de notre ego, de nos émissions, de nos émotions, de nos émissions aussi. Remarquez, beau lapsus. Un téléphone, le 33 84 22 75 75.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment se libérer de ses tensions, de son ego, retrouver le calme intérieur. Mon invité, le docteur Serge Marquis, est un médecin québécois, spécialiste en santé communautaire. Il vient de publier « On est foutu, on pense trop », »,« Comment se libérer de Pensouillard, le hamster » aux éditions de La Martinière. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Les informations, Sylvie Hasbrouck, vous étiez en train de nous parler de nos émotions. Vous faites tout un travail d'ailleurs artistique là-dessus et vous dites que finalement, pour se calmer, une autre façon, c'est peut-être aussi de jouer avec ses émotions.
Bah, c'est-à-dire, vous me connaissez, Claire.
Vous êtes joueuse.
Voilà, c'est ça. Mon réflexe à moi est de transformer les émotions en créations diverses, on va dire. Et ça ne vous empêche pas de méditer, mais ça peut vous laisser le temps d'en avoir le réflexe petit à petit parce que finalement, les émotions nous prouvent que nous sommes vivants, singuliers, que nous avons tous un disque dur d'indices émotionnels nous indiquant qui nous sommes et de quoi nous avons besoin, que nos émotions nous aident à grandir et que prendre des risques, c'est découvrir de nouveaux horizons. Mais Sarah Claire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore Dory dans Nemo.
Oh, allons. Tout va s'arranger, tu verras.
Non, non, c'est foutu.
Mais non, voyons, tu verras.
Non, j'ai pas réussi à tenir mes promesses. J'avais juré qu'il lui arriverait jamais rien.
Ah oui? Dis donc, tu fais de drôles de promesses.
Pourquoi?
Bah, si tu fais en sorte qu'il ne lui arrive jamais rien, il risque de ne jamais rien lui arriver. Il va s'ennuyer, le petit harpeau.
Et oui, on va s'ennuyer s'il nous arrive jamais rien. En même temps, on va finir par s'ennuyer.
Tout va s'arranger, c'est bien ça, docteur Serge Marquis. Vous essayez de nous convaincre qu'il faut se convaincre, tout va s'arranger.
En fait, il est possible que tout s'arrange quand on est dans le moment présent. Et c'est ça qui est très important, parce que si le hamster court sans cesse dans notre tête, on n'est pas en train de trouver des solutions à ce qui est en train de survenir. Alors que si le hamster se calme, la créativité est disponible. Et la créativité peut trouver des solutions, faire un inventaire des pistes d'action. C'est là qu'est notre pouvoir.
Et vous avez un petit truc très précis pour se calmer, c'est la question de la respiration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment respirer? Parce qu'en fait, on respire mal.
Alors, absolument, parce que c'est vraiment plus placer son attention sur sa respiration. C'est l'expression fondamentale. Les trois mots fondamentaux, placer son attention sur sa respiration. Alors, il faut que son attention soit sur la sensation du souffle quand il traverse les narines, gonfle l'abdomen. C'est très important de gonfler l'abdomen.
C'est ça, parce que souvent, on a le réflexe inverse. Quand on respire, c'est en fait de rentrer le ventre, il faut faire exactement l'inverse.
Oui, absolument, parce que quand on gonfle l'abdomen, il se passe quelque chose de biologique.
Donc, on inspire pendant 5 secondes. Oui. J'ai bien lu votre texte. Non, mais je la connais, l'histoire.
Tout à fait.
La pratique.
Et à ce moment-là,
on inspire pendant 5 secondes.
Oui. Absolument.
Et on expire
pendant 5 secondes. Et à ce moment-là, on stimule le système nerveux parasympathique. On stimule un nerf, il s'appelle le nerf pneumogastrique.
Et on fait ça combien de fois?
On peut le faire pendant une minute facilement, sans difficulté.
Une minute, ça fait 6 fois.
Exact. Tout à fait. Il faut surtout pas s'étourdir. Oui. Il faut donc y aller tranquillement. Mais à ce moment-là, on stimule un nerf qui va envoyer un message au cerveau d'arrêter la sécrétion des hormones du stress. C'est biologique, c'est absolument fantastique. Quand on gonfle l'abdomen, stimule on étire le diaphragme, stimule le système nerveux parasympathique, on entre dans la relaxation. Et on oublie de faire ça parce qu'on respire du thorax. Mais il faut que notre attention soit sur notre souffle. Et quand notre attention est sur notre souffle, elle n'est plus sur le discours intérieur, sur le jugement, sur la critique, sur le blâme. Et c'est ce jugement, cette critique, ce blâme qui déclenche sans cesse la réaction de stress. Alors quand on ramène l'attention sur le souffle, c'est comme si on débranchait la course du hamster. Et en débranchant la course du hamster, on entre biologiquement dans la relaxation, dans la créativité, dans la capacité à être là, à créer, à transmettre, à apprendre, à s'émerveiller, à savourer, etc.
C'est le début de votre exercice. On verra la suite après, parce que vous avez plein d'autres exercices à nous proposer. On a au téléphone le docteur Chouaki Azouri, qui est psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Montliban à Beyrouth, au Liban. Docteur Chouaki Azouri, bonjour.
Bonjour Claire Edon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé, parce que c'est aussi un jour férié pour vous. Comment oui. d'abord se manifestent les problèmes d'égo au Liban? J'avais plutôt moi en tête les Libanais, je dirais un peu comme les Français, avec une bonne dose d'égo, si je peux dire les choses comme ça. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, pas tout à fait, sauf que les problèmes d'égo au Liban sont multipliés par 10 du fait du délitement, si vous voulez, du tissu social, du fait du délitement donc de l'État, hein, et donc de tout ce qui pousserait les gens, les citoyens à oublier un peu leur égo au profit d'une organisation sociale qui leur donne d'autres genres de satisfaction. Mais cela dit, juste pour rappeler que ce n'est pas un problème ni actuel, ni localisé, Liban, France, etc., Canada, c'est un problème qui existe, donc une sorte de lutte entre l'ego, le moi, et l'intérêt pour l'autre, c'est un problème qui existe depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité est née progressivement à partir du moment où les individus ont dû renoncer hein, à leur ego, à leur pulsion, hein, destructrice mais en même temps jouissive, pour hein, les brimer dans l'intérêt du social et du groupe. Ça, si vous voulez, on en voit quelque chose de quotidien pour les pauvres.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est une histoire vieille comme le monde. Or, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui est plus aigu ces temps-ci, cette histoire d'ego.
Si vous voulez, Claire Edon, mais juste, c'est important de se rappeler que si on dort 8 heures par jour, et si on rêve 5 heures sur les 8 heures que l'on dort par jour, c'est bien pour restituer notre ego qui prend des coups au quotidien, des privations, des frustrations. Au quotidien, on vit mais des milliers de frustrations. Donc quand on dort, et c'est impératif de dormir et de rêver, on restitue notre ego qui a pris des coups. Donc vous voyez, il y a une balance permanente entre notre ego, dont on a absolument besoin, et les restrictions imposées à notre ego du fait de notre vie dans le social. Vous voyez ?
Et comment ces sujets sont abordés en consultation ?
Bien, si vous voulez, exactement.
Par les rêves, justement ?
Exactement. Mais les gens viennent consulter quand il y a un déséquilibre entre leurs désirs individuels, leur satisfaction individuelle et les privations qui leur viennent du groupe social familial dans lequel ils vivent. À ce moment-là, du fait de ce désaccord, eh bien, l'angoisse, la difficulté de respiration, comme mon collègue le disait tout à l'heure, les difficultés que l'on peut, en effet, je suis d'accord, hein, que l'on peut régler par la relaxation, par l'apprentissage de la relaxation, mais en même temps, si vous voulez, j'irai un peu plus loin, parce que les difficultés de respiration et l'apprentissage de la relaxation sont les conséquences de ce conflit entre le moi, l'ego et le groupe. Donc, le psychanalyste hein, aide le patient à aller plus vers les raisons de ce conflit.
Et comprendre pourquoi. Pourquoi on réagit comme ça. Alors, je voudrais vous faire réagir, docteur Serge Marquis, là-dessus, parce que j'ai compris dans votre livre quand même que vous, si je puis m'exprimer ainsi, tirez un peu à boulet rouge sur la thérapie. Vous trouvez qu'en gros, ça sert à rien.
Non, pas du tout.
J'exagère en disant
ça. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'on peut être accompagné. C'est même nécessaire qu'on soit accompagné dans la découverte de ce que nous sommes vraiment, dans la connaissance de soi, parce que c'est très très difficile s'il y a ce petit hamster et qu'on sans arrêt de bien se connaître.
Oui, difficile. À faire tout seul, justement.
Donc, un accompagnement d'une personne qui est à côté de nous, qui nous aide à découvrir qui nous sommes vraiment, c'est fondamental. À découvrir, effectivement, la torture qu'on s'inflige à soi-même et les raisons pour lesquelles on se les inflige, ces tortures, et la capacité, surtout, que nous avons d'être en relation.
Donc, la thérapie, ça peut aider. Simplement, vous dites, souvent, ça ne suffit pas.
Non, c'est ça, parce qu'il y a tout un apprentissage qui peut se faire, au bout du compte, par soi-même, parce que le thérapeute ne peut pas le faire à notre place. Ça, c'est très important. Puis, je voudrais ajouter une petite chose aussi sur la modernité. Il y a un philosophe montréalais qui s'appelle Charles Taylor qui a écrit un livre qui s'appelle « Grandeur et misère de la modernité » dans lequel il dit qu'un des plus grands et des plus graves problèmes de la modernité, c'est la montée constante du narcissisme. Et ça, c'est très, très contemporain à mon humble avis. Il y a cette espèce de renforcement à travers l'image, l'importance de l'image, le souci de l'image à cause de tous les moyens technologiques qui se sont multipliés grande vitesse.
Faudrait se détacher du regard des autres, en fait.
Ben, oui, absolument, parce qu'avec Facebook, etc., on est toujours en train de, d'évaluer notre image, le regard des autres sur notre image. Ouais. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, like, not like, etc., etc. Mm. Donc, il y a une espèce de croissance de l'importance du narcissisme dans cette société, compte tenu de la technologie, de la vitesse à laquelle tout est véhiculé.
Docteur Azoury, vous aviez envie de réagir.
Oui. Oui, je suis d'accord sur ce que mon collègue vient de dire sur les conséquences maladives de la modernité, et que c'est vrai que les techniques d'aujourd'hui, quelles qu'elles soient, donc les réseaux sociaux, entre autres, dont je pense beaucoup de bien, mais ils ont des conséquences de repli narcissique, forcément, qui fait que d'un côté, ça nous pousse à rester entre soi et soi, ça nous empêche, en apparence on est en contact avec les autres à travers les réseaux sociaux, mais en fait c'est un contact qui reste fictif, irréel, puisque ça se passe par Internet. Donc c'est bon, mais c'est pas bon non plus, et je reviens, Clairedon, à l'importance, si vous voulez, des choses naturelles. C'est pour ça que je vous ai parlé du rêve, parce que le rêve, ça nous permet de nous restituer, de nous reprendre pendant la nuit, pour nous nourrir des choses dont on a été empêché et privé pendant la journée. Donc c'est ça, la respiration, ce que disait mon collègue sur la respiration et la relaxation, je suis entièrement d'accord, parce que c'est des choses naturelles, quoi.
Et comprendre en fait ce qui nous a énervé, ou plutôt qu'est-ce qui est derrière ce qui nous a énervé, parce que finalement c'est pas forcément la queue à la caisse qui nous a vraiment énervé, c'est qu'il y a autre chose de caché derrière.
Ben oui, mais c'est le monde, c'est vraiment l'histoire de l'humanité, qui est dans cette opposition entre le moi et l'autre.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, docteur Chouaki Azoury. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie à l'hôpital Montliban à Beyrouth. Merci.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de notre ego avec le docteur Serge Marquis, qui est un médecin québécois qui vient de publier « On est foutu, on pense trop ». Comment se libérer de Pensouillard le hamster? C'est aux éditions de La Martinière. Je voudrais qu'on revienne sur les exercices que vous proposez, docteur Serge Marquis. On a parlé de la respiration. Donc, une fois qu'on a compris, je dirais, comment bien respirer pour arrêter de se concentrer sur tout ce qui va pas, être à l'écoute de l'autre. Et on fait quoi? La suite de l'exercice, c'est quoi?
Toutes les situations où on peut utiliser nos sens sont des moments privilégiés pour se détacher du discours intérieur là qui est lié à la peur qu'a l'ego de mourir. Pendant qu'on mange, j'ai du vin dans ma bouche et je peux avoir le hamster qui court à toute vitesse en train de se dire qu'est-ce qui va m'arriver demain matin, j'ai une présentation.
Au lieu de profiter du bon vin.
Au lieu d'avoir l'attention complètement sur les saveurs du vin et de le découvrir. Je vais même très loin. Parfois, les gens sont en train de faire l'amour, ils sont en train d'évaluer leur performance à cause du discours intérieur.
Mais avec ça, vous avez tout un chapitre sur la sexualité qui est intéressant, parce que vous dites que c'est un moment, normalement, où justement, le petit hamster, il se calme.
Oui, parce qu'on devrait être complètement dans le moment présent, pas en train d'évaluer notre image dans la tête de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser,
machin. Ça marche pas dans ces cas-là, d'ailleurs.
Oui, absolument. Alors, c'est un endroit extraordinaire pour ramener l'attention complètement sur les sensations qu'on éprouve. La même chose quand on écoute de la musique, le thé dont vous parliez tout à l'heure. Tout ce que les sens peuvent vivre peuvent nous amener dans le présent.
Sylvie Asbro, vous voulez réagir?
Est-ce qu'on est tous égaux pour avoir cette capacité à revenir dans le présent?
Nous avons tous cette capacité. Ça, c'est fondamental parce qu'on a tous ça en commun. Tout le monde. Et c'est ce qui nous permet de nous relier aussi les uns aux autres.
Moi, j'ai toujours Mais il faut du temps pour réussir à le faire, c'est ça? Il vous a fallu combien de temps? Non, parce que vous parlez de vous dans le livre, vous dites que...
Oui, tout à fait. Mais je travaille encore là-dessus constamment, mais on gagne du temps. C'est ça qu'on a oublié. Parce que si l'enfant arrive de l'école, je donne toujours cet exemple, je le trouve très, très important, qui a connu une mauvaise journée, qui a eu un conflit avec un camarade, ou une difficulté avec un enseignant, une enseignante, il veut me raconter ça. Et que mon attention est, dans ma tête, occupée à penser à ce que j'ai vécu moi-même dans ma journée.
Vous aussi, avec des difficultés au boulot. Et voilà.
C'est ça. Donc, je suis pas en train de l'entendre, de l'écouter, de lui apporter ou de mon aide, une solution à ce qu'il est en train de vivre. Mais ça va revenir. Parce que s'il l'a pas vécu, s'il y a pas la solution, s'il y a pas une piste d'action, ça va revenir. Ça va se manifester d'une autre façon. Alors, le temps que je ne gagne pas en l'écoutant, je vais le perdre éventuellement, là, parce que ça va se manifester par un conflit à l'adolescence ou je ne sais trop. Alors, donc, à chaque fois que je suis présent ou présente, je peux éviter des problèmes, faire une certaine forme de prévention, si vous voulez, par l'attention que j'apporte.
En fait, il faut se pousser à vivre à deux à l'heure.
Voilà, oui, c'est ça, se calmer. C'est ça. Ça va être aussi compliqué que possible pour vous que pour moi.
Oh là là, là.
On a Zéna qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Zéna, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Zéna.
Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure.
Oui, mais là, vous avez eu tout à l'heure, je vous explique. Vous avez eu Jeanne, c'était pour préparer votre intervention. Mais là, nous, on ne vous a pas eu tout à l'heure au téléphone. Donc, vous nous expliquez, Zéna.
D'accord. En fait, je disais à Jeanne, il n'y a que mes univers qui comptaient. Les autres, ça ne m'intéressait pas. Je suis un peu coupée du monde, quoi. Étant libre, si ce n'est pas Internet ou bouquiné, j'ai besoin de personne. Là où il y a rassemblement, c'est sans moi, parce que je n'aime pas voir des gens, ni les écouter, parler.
En fait, vous en souffrez. Vous aimeriez bien aller plus vers les autres, mais vous vous demandez un peu comment faire. Docteur Serge Marquis, justement, comment faire du coup pour aller plus vers les autres, ne pas s'enfermer? On sait bien que justement, Internet, Facebook peut aussi être un moyen de s'enfermer et de pas aller vers les autres.
Ouais, tout à fait. Mais il y a un ami à moi qui m'a déjà dit la meilleure façon d'être intéressant, c'est de s'intéresser. Le pouvoir est dans l'intérêt. Et l'intérêt génère de l'intérêt. Si je suis toujours en train de me demander si je vais être intéressant, je vais nécessairement avoir peur de ne pas l'être. Je vais essayer d'être performant, performante, d'essayer de voir si mon image dans la tête de l'autre est suffisamment adéquate pour que l'autre s'intéresse à moi. Et je ne suis plus en train de m'intéresser à l'autre.
Donc vous dites tout simplement, écoutez l'autre.
Intéressez-vous à l'autre, regardez-le, regardez-la, écoutez l'autre, sentez, intéressez-vous à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, etc. Et immédiatement, va se générer un lien. Il n'y a rien de plus puissant pour devenir intéressant que d'être intéressé. C'est fondamental. Mais pour être intéressé, il faut être là. Il faut être présent ou présente. Si je ne suis pas présent ou présente, l'autre va sentir que je ne suis pas intéressé. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent parce qu'effectivement, ils sont constamment en train de se demander s'ils sont intéressants plutôt que d'être intéressés. Et ça fait une énorme différence.
Merci, Zéna. Donc, vous avez compris, essayez d'écouter les autres, de s'intéresser aux autres. C'est ça qui permet de sortir de soi. On a Fayala qui nous appelle de Guinée. Fayala, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Fayala.
En fait, je suis guinéen, j'ai 28 ans. Mon père vivait en Côte d'Ivoire et il m'a dû amener chez ma tante à l'âge de 4 ans, à sa demande. Elle était l'aînée et mon papa n'avait pas vraiment le choix. Je suis resté jusqu'à l'université. Ma tante s'est bien occupée de moi, mais l'affection et l'attention de mes parents m'ont toujours manqué. Je pensais qu'en trouvant du travail à la fin de mes études, cela irait mieux, mais je suis toujours au chômage. À chaque fois que je passais un entretien, on me rappelait, mais au final, ça n'aboutissait pas. Par manque de relations, du fait de crise économique ou de voilà dans notre pays, j'ai fini par souffrir de colopathie fonctionnelle et d'insomnie. Aujourd'hui, je vis chez mes parents. Mais c'est comme si nous étions étrangers et nous n'avions pas vraiment le sentiment de l'un pour les autres. Mes parents sont tellement pauvres, ils ne peuvent pas m'entretenir et me soigner. J'ai l'impression d'être à leur charge. Et tout cela m'angoisse. Je veux savoir que faire pour oublier mon passé et revenir avec le présent. Comment retrouver l'espoir?
Merci Fayala pour cette question, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Effectivement, quand on est trop préoccupé par ce qui vous est arrivé, par le passé, vous dites qu'il faut vivre l'instant présent, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire de temps en temps.
Ah, tout à fait, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut oublier, le passé. C'est quelque chose qui était enregistré, qui revient constamment. Ce qui est intéressant, c'est de voir si l'attention est dans le passé en permanence ou si elle est disponible ici et maintenant, entre autres, pour trouver, j'insiste beaucoup là, mais des pistes d'action devant les problèmes qu'on est en train de vivre, plutôt que de s'imaginer qu'il n'en existe pas parce que notre attention est dans le passé. On ne l'efface pas, mais on ramène l'attention là où elle a du pouvoir. C'est ça qui est très important. Et là où l'attention a-t-elle du pouvoir, elle n'a pas de pouvoir pour changer le passé, mais elle a du pouvoir pour agir dans le présent afin de préparer l'avenir. Ça, elle peut le faire. Ça a l'air banal, mais constamment, notre attention est dans le passé, en train d'essayer parfois de l'effacer, de le réparer, de le transformer, alors que c'est impossible. L'attention va être efficace si elle est dans le présent, en train de faire l'inventaire des pistes d'action possibles et de passer à l'action.
Merci Fayala. Je voudrais juste vous lire un message qu'on a reçu de Jo à Conakry, qu'on n'a pas réussi à rejoindre. Il dit « Ma petite amie vient de me quitter après 3 ans passés ensemble. Elle me reprochait d'avoir un ego surdimensionné. Elle disait que je ne faisais pas d'efforts dans la relation. J'ai été très surpris qu'elle me quitte d'ailleurs aussi brutalement. Je souffre de la séparation, même si je ne le montre pas, car je suis pas très expressif. Et même si j'ai parfois envie, je me vois mal aller chez elle avec un bouquet de fleurs, me mettre à genoux pour crier que j'ai eu tort. Est-ce... Mais j'avais envie de vous lire ce message parce qu'il me paraît assez intéressant. Vous évoquez la question de la séparation qui renvoie une vraie douleur, une vraie blessure sur l'ego. Et là, vous dites aussi, dans ce genre de choses, on se trompe de combat, entre guillemets.
Oui, tout à fait, parce que c'est en vivant le sentiment de rejet, c'est encore une fois la peur qu'a l'ego de mourir. Malheureusement, les êtres humains entrent très souvent en relation d'égo à égo et non pas d'égal à égal. Autrement dit, ils sont pas dans une relation de présence à présence. On est souvent dans une relation d'égo à égo. Alors, évidemment, et la petite amie qui veut absolument avoir l'attention de l'autre, qui est toujours en train d'évaluer si oui ou non elle l'a ou elle ne l'a pas, va porter des jugements constants. Ah, il s'occupe pas de moi, il ne m'écoute pas, etc. Et là, elle va vouloir quitter et la personne qui est quittée va vivre un sentiment de rejet, bien sûr. On ne m'apprécie pas, on ne m'aime pas. Et c'est encore l'égo qui ne veut pas apporter de fleurs. Disons, je vais être la personne faible, comprenez-vous, si j'apporte des fleurs, c'est l'autre qui va avoir gagné. C'est l'ego de l'autre qui va avoir gagné devant mon ego. C'est pas deux présences qui se rencontrent l'une et l'autre dans un intérêt.
Alors, le conseil, c'est quoi? S'il a vraiment envie de la revoir, de retourner avec un bouquet de fleurs, c'est ça?
Oh, ben, ce serait merveilleux s'il pouvait calmer la bête à l'intérieur, là. Non, évidemment, j'apporterai pas des fleurs parce que c'est pas moi qui va gagner. Calmer la bête et aller dans un mouvement vers l'autre avec son intérêt pour l'autre. Toujours conscient de l'activité de l'ego de l'autre.
Est-ce que, pour faire le lien entre le passé et le présent, on peut pas commencer à lister tout ce que le passé nous a appris sur nous-mêmes, tout ce qu'on a fait, une sorte de liste positive de toutes les galères qu'on a passées, et puis de se dire, en attendant, je suis encore vivant, finalement, ce jour-là, j'ai pas été trop mauvais. Est-ce que ça peut pas être ça, le moyen de faire le lien pour revenir...
Oublier après.
Voilà. Pour revenir au présent.
Absolument. Ouais. Superbe question. En se disant, d'ailleurs, quelles sont les ressources que j'ai utilisées à l'intérieur de moi...
Ce jour-là.
Oui.
Pour traverser... arriver à... Voilà.
Et alors, juste une dernière question, parce que je voudrais qu'on prenne Stéphane Besançon en ligne pour qu'il nous parle nutrition, comment s'alimenter correctement. Je trouvais intéressant parce que vous finissez votre livre en disant la résurrection existe, on est le week-end de Pâques. Du coup, je trouvais que c'était d'actualité. C'est une façon de ressusciter, en fait, c'est justement de faire tout ce que vous nous avez dit, de faire tous ces exercices.
Ben moi, je crois que si on arrive à se libérer, l'ego est toujours présent, mais si on arrive à se libérer momentanément de l'ego pour être dans le présent, on ressuscite parce qu'on est complètement dans la vie. Moi, je trouve que c'est une merveilleuse métaphore qui nous permet de dire « je ne suis pas mort » à travers les mouvements de l'ego qui m'empêchent d'être là, et je suis vivant dans la présence que je peux avoir à ce qui m'entoure, à ce que mes sens peuvent percevoir, à ce qui me permet d'aimer et de savourer pleinement mon existence.
Merci, docteur Serge Marchi. Je rappelle que vous avez publié « On est foutu, on pense trop » aux éditions de La Martinière. Et on retrouve tout de suite Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Vous êtes responsable de l'ONG Santé Diabète. Vous intervenez tous les lundis pour nous donner des bons conseils pour qu'on s'alimente plus correctement. La dernière fois, vous nous avez parlé du petit déjeuner. On va donc attaquer le déjeuner et le dîner. Alors, pourquoi faut-il d'abord diversifier son alimentation?
Claire, tout simplement d'abord parce qu'aucun aliment ne contient à lui seul tout ce que notre organisme a besoin pour fonctionner correctement. Donc diversifier son alimentation, ça consiste à consommer d'un repas à l'autre et d'un jour à l'autre des aliments différents au sein de chacune des grandes familles d'aliments, les lipides qu'on appelle les graisses, les glucides et les vitamines. Ceci, ça permet de couvrir au mieux l'ensemble des besoins en nutriments, vitamines et minéraux. Il est donc très important de retenir qu'aucun aliment n'est à bannir pour votre santé ou votre équilibre alimentaire, à condition que sa consommation ne soit ni excessive ni insuffisante. Les auditeurs le savent, on a vu dans différentes chroniques précédentes que la consommation en excès des produits sucrés, des graisses et du sel produit des effets nocifs sur la santé.
J'ai bien compris, on peut manger un carré de chocolat mais pas la tablette en entier. Alors comment doit-on Comment doit-on organiser ces deux repas pour équilibrer au mieux la journée?
Alors, en général, le repas du midi doit fournir un peu plus d'énergie que celui du soir, car il permet d'arriver au repas du soir sans grignoter durant l'après-midi, et on sait que c'est un enjeu majeur de stopper au maximum les grignotages. De son côté, le dîner, lui, doit être plus léger pour ne pas surcharger la digestion et le sommeil. Il est ensuite important de penser à équilibrer les repas l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si un déjeuner a été très copieux et riche en graisse le midi, il faut consommer un peu moins le soir et avoir un repas plus léger le soir. Mais il faut que les auditeurs fassent attention. Ça ne veut pas dire que si on a eu un déjeuner léger le midi, il faut avoir un dîner très copieux pour pouvoir dormir correctement.
Pour compenser.
Alors, un autre... tout à fait. Ça, c'est un gros problème parce que souvent les gens, notamment en Afrique, sautent le repas du midi dans les pays où il n'y a pas la pause le midi. Et du coup, font un énorme repas le soir, ce qui fait qu'ils dorment mal et puis surtout, ils accumulent beaucoup d'énergie.
Mauvaise idée. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pratiques pour composer ces deux repas?
Alors, on peut retenir 5 éléments pour composer ces deux repas. D'abord, l'entrée. On va plutôt aller vers une salade et avec une faible quantité de sauce, parce que bien sûr, on sait que c'est la sauce qui apporte les graisses qu'on essaye d'éviter au maximum. Ensuite, un plat principal qui sera composé plutôt de céréales, racines ou tubercules. Alors là, il y a une palette très large de choix. On pourra parler du riz, du mil, du sorgho, du fonio, manioc et plein d'autres. Et c'est ce plat à base de céréales qui doit être accompagné d'une sauce qu'on va essayer d'être la plus riche possible en légumes et avec le minimum de graisse et de sel. Alors ça peut être des sauces à base de feuilles, mais ça peut être aussi des légumes cuits comme le gombo, la tomate, l'aubergine, les oignons, il y en a des dizaines d'autres. Alors c'est cet accompagnement aussi qui peut contenir la viande et le poisson, et comme on l'a vu aussi dans plusieurs chroniques, il faudra limiter la consommation de viande rouge au maximum.
Et le dessert ?
En dessert, alors là, on va plutôt aller vers un fruit qui va être consommé sous forme de fruits frais en choisissant le moins sucré ou en consommant en petite quantité les plus sucrés comme la banane ou la bangue. Et enfin, j'allais dire, le point central pour moi, c'est la boisson qui doit être absolument de l'eau pour accompagner les repas et éviter au maximum d'accompagner les repas de sucreries.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. On retrouve cette chronique comme d'habitude sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr. Et demain, on parlera de la sécurité sanitaire des aliments à l'occasion de la Journée mondiale de la santé.